Alors, pour commencer cette conférence sur l'iconographie de Saint François, je vous présente celle qui est, disons, reconnue comme le portrait le plus vrai, rapprochant des traits, mais je crois aussi, je pense, de la mystique de Saint François, de son regard, de sa présence, dans l'icône de sa présence, en fait. Après, on va retrouver des milliers d'images, comme celle-ci, qui représente les scènes de la vie de Saint François. Et l'icône, vraiment, c'est le portrait. Le portrait, ça signifie la présence. Donc, je vais essayer de faire une conférence sur ce qui s'est passé dans la vie de Saint François, avec sa rencontre du Christ de Saint-Damien, de cette icône, et de ce qui s'est passé après dans sa vie, et après dans l'histoire de l'image qui va suivre dans la vie de Saint François, puisqu'il est au basculement de l'histoire de l'image. C'est le début de presque le début de la Renaissance, et il va y avoir une autre conception de la beauté dans l'image. On va passer d'une conception byzantine qui était axée sur la foi et la présence, c'est une conception occidentale qui est axée sur la beauté de l'image. Voilà. Donc, ce portrait, j'avais une vidéo, malheureusement, j'ai pas pu la charger, qui expliquait beaucoup profondément ce qu'il représentait. Donc, en fait, c'est un peintre inconnu dans un monastère où était passé Saint François. C'est une fresque. Alors, il a les traits de l'icône byzantine, c'est-à-dire stylisée, avec une écriture du visage, en fait, qui va être abandonnée rapidement après Saint François par Giotto, où il ne va pas faire une écriture, il va essayer de représenter l'image de la réalité. Voilà, donc c'est étonnant que Saint François soit au basculement de ces deux mondes. Voilà, donc je vais passer là-bas, passer sur les écrits. Alors, il y a dans la culture où a vécu Saint François, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge et le début de la modernité occidentale, c'est-à-dire une organisation matérielle du monde et des méthodes en expansion vers l'amélioration des conditions de vie sur Terre. Il y a une confusion entre une sortie d'esclavage et une entrée vers la liberté. La confusion, c'est entre la sortie de l'esclavage de la faiblesse et la fragilité du corps et de la société, et l'entrée dans un corps nouveau où la vie va être plus facile et la société plus florissante. Saint François a compris la confusion et s'en est allé vers la nouvelle naissance donnée par le Christ de l'eau et de l'esprit, une nouvelle naissance spirituelle. Et l'on sait combien est importante sa rencontre de l'icône du Christ de Saint-Damien, où est représentée toute la mystique chrétienne de la beauté. Alors, nous avons là l'icône de Saint-Damien. En fait, pourquoi c'est la mystique chrétienne de la beauté? Parce que tout est axé sur la présence du Christ. Tout le travail esthétique, tout le travail théologique est axé sur le mystère de sa présence. Donc là, c'est le Christ ressuscité sur la croix, le mystère de sa résurrection et de sa passion. Immédiatement après la mort de Saint François, l'Italie va être plongée dans les prémices de ce que l'on nomme la Renaissance, qui est dans son essence un retour à l'éclosion de la conscience artistique humaine qui est née dans les grottes de la préhistoire. La Renaissance est toujours à l'œuvre dans la réalité d'une forme d'art encore dans le monde aujourd'hui, en perpétuelle recherche et compréhension des forces de la nature et leur questionnement métaphysique. La Renaissance est alors la grande rupture avec le canon sacré de l'iconographie byzantine. La naissance d'en haut, qu'annonce Jésus, et la Renaissance de l'art vont entrer dans une histoire très compliquée et très riche à la fois, où va régner la confusion, dont nous sommes encore héritiers aujourd'hui, au sujet de la question « Qu'est-ce qu'une icône liturgique ? Qu'est-ce que le sacré ?» Confusion qui est écartée par la grâce de la bénédiction du Saint-Esprit. L'image dont bénéficie Saint François depuis est phénoménale. Elle s'étend de l'iconographie byzantine à l'imagerie de synthèse. Alors, je n'ai pas trouvé vraiment de portrait byzantin de Saint François. C'est-à-dire, je vais vous montrer exactement ce que c'est qu'un portrait byzantin. Alors là, je n'ai pas trouvé d'image comme ça de Saint François, c'est-à-dire où tout est axé sur cette lumière qui est représentée par les traits blancs et qui signifie qu'il est entré dans notre lumière. C'est exactement ce qu'ont voulu représenter les peintres byzantins, mais je vais vous lire là ce que j'ai écrit. La charte que s'était donnée l'Église dans l'iconographie était simple et claire. Il s'agissait, à partir de deux images que nous avons de Dieu, faire une image sainte pour le culte. Quelles sont les deux images que nous avions de Dieu ? La première, c'est l'incarnation du Fils, Jésus de Nazareth, venu chez lui dans sa création. Cette réalité est confiée aux artistes pour en faire une beauté de la synthèse poétique du visage et du corps et de la nature. La deuxième image de Dieu, c'est la lumière de la transcendance, plusieurs fois suggérée par les prophètes et décrite par saint Pierre lors de la transfiguration au mont Tabor, c'est-à-dire la réalité du ciel. Cette représentation de la lumière incréée n'a pas été confiée aux artistes, mais aux théologiens, parce qu'elle est inintelligible. L'iconographie a été l'harmonisation de ces deux pensées, poétiques et théologiques. Cette union de travail des artistes et des théologiens est une grâce de l'Église qui n'existe pas en dehors, qui a représenté plusieurs siècles de réflexion, parfois gravement tourmentée. C'est aussi cette tourmente qui est portée par le Christ et par son disciple Saint François dans leurs souffrances et les stigmates. Et le visage du linceul de Turin nous en montre que l'image a été aussi pour le Christ une grande souffrance dans l'histoire de l'humanité. Nous avons bien compris que la réalité divine de la lumière éternelle nous échappe complètement et que donc il s'agit non pas de la peindre, mais de l'écrire. Voilà pourquoi on dit « écrire une icône ». Alors, vous allez me dire, comment fait-on pour écrire la présence d'une lumière invisible, inintelligible ? En fait, c'est très simple. Il s'agit de voir ce qu'en disent les voyants, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Ils disent, nous avons vu un blanc, comme il n'en existe pas sur Terre. Et puisque c'est le blanc, la seule description de la lumière du Seigneur transfiguré, l'iconographie va utiliser le blanc pur pour écrire l'invisible. C'est pourquoi dans le canon byzantin de l'icône, le blanc est le point d'orgue de l'image. C'est comme si tout le reste des harmonies colorées était à son service. L'icône se termine par un blanc pur au coin des yeux et sobrement posé sur les vêtements et montagnes. Pourquoi sobrement ? Parce qu'il évoque le mystère de la résurrection. Si l'on regarde l'écriture depuis la Genèse, la résurrection est décrite en un éclair, une ligne. Ressuscité le premier jour de la semaine, Jésus est apparu en premier à Marie-Madeleine. C'est un éclair de révélation qui éblouit par sa concision qui est la vérité. Ainsi, l'iconographie a capté et compris rapidement qu'il fallait être concis dans l'image et que le peu de blanc résume le mystère de la résurrection. Saint François, me semble-t-il, parce qu'il était catholique, n'a pas bénéficié du génie des grands peintres d'iconographie russes et grecs, des siècles d'or où il a vécu, mais des artistes italiens comme Giotto, Cimabue, Simone Martini, je vais vous montrer des images tout à l'heure de ces peintres, qui eux n'ont pas la théologie de l'écriture, mais de la peinture. Une autre symbolique de la lumière incréée est l'or, déposé par les Byzantins en résonance derrière les visages du Christ, de Marie et des saints. Cet or va être disparaître de l'iconographie de saint François. On en trouve un peu, mais l'or prend plus une tournure esthétique. Dans l'iconographie byzantine, on avait commencé un travail sur la symbolique du corps, une architecture sacrée, stylisée de toute la nature. Par exemple, le visage, ô combien sacré que nous connaissons très bien et qui nous échappe totalement, c'est le nez au centre comme un arbre, les yeux en bras de la croix et la bouche comme l'autel du sacrifice, parole eucharistique. Après saint François va s'ouvrir le grand champ d'investigation du nombre d'or et de loi de l'harmonisation de la beauté. Saint François, en majorité, est représenté par un visage impassible ou peu expressionniste, mais en paix, au milieu de la création. Je vais vous en mettre des portraits de Saint François. Donc voilà, ça c'est des images récentes. Mais c'est l'image classique qu'on retrouve de Saint François depuis les origines d'ailleurs. Voilà, ça c'est encore une image récente. Tout ça sont des images en réponse aux fresques de Giotto, où toutes ces scènes ont déjà été représentées, mais d'une manière plus iconographique, on va dire. Voilà, ça c'est une image des peintres du XVIIe, XVIIIe siècle. Ça, c'est un peintre espagnol. Donc, pareil, là, c'est le côté de représentation d'un religieux, d'un mystique. Alors ça, c'est une représentation de Botticelli, c'est la Renaissance. Donc, pareil, c'est la période où on essaye de voir le côté humain des personnages unis au ciel. Donc tout a un aspect, on va dire, un aspect de relation humaine, on va dire, entre les anges et saint François. Mais il est toujours sobre, en fait, dans ses expressions, saint François. Malgré tout, il n'a jamais été, on n'y a jamais trop montré d'émotion dans ses visages. Alors ça, c'est... Voilà. Alors, là, ça, c'est un portrait de Cimabue. Alors ça, c'est juste après sa mort, en fait. Alors là, on a encore l'auréole et l'or. Ce sont des peintres qui ont connu les peintures byzantines, qui ont appris certainement avec des peintres byzantins. D'ailleurs, l'icône de Saint Damien, elle date du Christ de Saint Damien, elle date du XIIe siècle, et ce serait un peintre syrien qui l'aurait peint. Parce qu'on sait qu'il y avait des Syriens qui étaient venus dans la région d'Italie à cette époque-là. En réalité, ce qui se passe après Saint François, c'est la possibilité d'apprécier une vie, une œuvre, sans y mettre de l'intention de prière ou d'union mystique. Chez Saint François, c'est l'inverse, puisqu'il met la prière partout. La foi est la porte d'entrée. L'iconographie fait appel à la foi comme porte d'entrée. Et l'image n'en est qu'une fenêtre. On n'entre pas par la fenêtre, mais par la porte. C'est ici que commence la vie de relation de Saint François avec les images peintes. Saint François lui-même entre par la porte qui est la foi et l'amour du Christ, et il contemple par la fenêtre qui est l'icône ou l'image. C'est assez étonnant comment il se trouve au tournant du culte de l'iconographie, car de suite, dans la basilique d'Assise, les peintres ont ouvert une nouvelle voie de l'image qui est sous l'égide philosophique de la beauté picturale. Ce que l'on nomme la beauté picturale est présent dans tout ce qui va suivre la vie artistique après saint François. Chez les orthodoxes, Le mur d'icônes, c'est le voile de la vision divine. Dans la basilique d'Assise, il n'y a plus d'iconostase. Il est étonnamment à la charnière de deux modes de conception de la beauté. Une comme intimement liée au sacré et l'autre indépendante du sacré. Le sacré, c'est la présence réelle. Le profane, c'est l'éclosion de la conscience humaine, c'est-à-dire la mise en image de l'histoire. C'est avec ce regard de foi que l'on peut essayer de voir la nature comme œuvre majeure de Dieu et non comme œuvre magnifiée par les artistes. Ici, on entre dans l'histoire contemporaine de la vision de la beauté qui s'est détachée de la foi en la transcendance. Si l'on veut se réjouir comme Saint François de la rencontre de Dieu dans sa création, on doit faire attention à ne pas donner trop d'importance à l'image par rapport à la foi en la présence du Saint-Esprit. Pratiquement tous les artistes ont essayé de sacraliser leur œuvre par une vision supérieure au réel. Alors là, je vais vous montrer des images, des peintures de Monet. Ce que je voulais dire, tous les artistes ont voulu sacraliser le réel. C'est un peu le mouvement qui s'est passé à partir du 19e siècle. L'impressionnisme. Les peintres ont essayé de voir dans le réel quelque chose qui est invisible. Alors, cette vision qui est à l'origine la recherche sacrée, en fait, que les iconographes ont mis en œuvre et ont défini par un canon, c'est la relation entre la nature et l'invisible, entre le réel et l'invisible. Chez ces peintres, ça a été plus une recherche dans ce qu'on appelle la beauté picturale, c'est-à-dire quel est le phénomène quand on voit et quand on peint, qu'est-ce qui se passe et comment le définir, comment en tirer une conclusion. Et je trouve que là, il y a justement dans la question où Saint François regardait la nature comme une œuvre de contemplation du maître, c'est-à-dire l'œuvre parfaite. Les peintres ont essayé de sortir de cette vision pour trouver un chemin qui les amène vers la transcendance. Et ce chemin, ils l'ont cherché dans la beauté picturale, dans la beauté des phénomènes de la vision. Et voilà, Monet, par exemple, à la fin de sa vie, il a fait l'orangerie, qui est les nymphéas, et il voyait ça comme un temple de méditation. C'est-à-dire, il voulait que ces images nous portent vers la métaphysique, vers autre chose, vers l'invisible. Beaucoup de peintres ont eu cette intention à la fin de leur vie. Ce que Saint François nous dit, c'est que c'est la foi qui la porte. Ce n'est pas la beauté de la représentation humaine ou de la magnificence de l'esprit humain. Ce n'est pas la fine pointe de la recherche humaine. Et c'est là où, en fait, il y a un basculement. En fait, l'erreur que fait la civilisation, c'est ne pas y mettre la foi. Car en effet, là où tous ont raison, c'est qu'il y a un monde d'une beauté, toute beauté que l'on pressent, mais qui est invisible. Là, on se trouve devant la plus grande difficulté. Lorsqu'on voit de la grande beauté, la difficulté, c'est de y demeurer. Alors souvent, j'ai des exemples personnels, et puis une fois, je peignais aux Gorges du Verdon, et j'étais à un endroit caché, et puis les gens venaient. Les Gorges du Verdon, c'est 300 mètres de vide. C'est une vue panoramique, c'est extraordinaire. Et j'entendais des gens qui arrivaient et qui voyaient tous crier « My God » en voyant le vide. Et 30 secondes de silence, une minute après, les gens se mettaient à plaisanter. Ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à rester dans le premier élan de la contemplation et qu'ils ramenaient leurs pensées sur des choses simples de l'existence. Et ce que j'ai compris, moi, c'est que Saint François, il sait demeurer. Il a le premier élan. et puis il rentre dans la contemplation. Alors je me suis beaucoup posé la question, comment, quel était son chemin? Et bien sûr, c'est la prière. Et c'est que il ne dissociait pas la beauté de la nature avec la beauté de la foi et le mystère du Christ, le mystère de l'inconnu, le mystère de Dieu. Je pense que c'est ça le chemin que nous ouvre Saint François le plus par rapport à l'image. Si l'on veut se réjouir comme Saint François de la rencontre de Dieu dans sa création, on doit faire attention à ne pas donner trop d'importance à l'image par rapport à la foi en la présence du Saint-Esprit. Pratiquement tous les artistes ont essayé de sacraliser leur œuvre en une vision supérieure au réel. J'ai souvent personnellement pensé, qu'est-ce qui nous rassure lorsque la grande beauté nous saisit? Car on est également saisi par l'angoisse. Alors ça c'est expérience, je ne sais pas si vous l'avez faite, mais quand en grande beauté, l'angoisse aussi nous saisit. Et c'est un peu,
contrepartie.
Voilà, une contrepartie, et puis c'est là où il faut trouver le chemin pour demeurer. Et alors là, j'ai eu, mon expérience, c'est que en récitant le rosaire dans la nature, donc en priant, c'est le dernier mystère qui nous met le plus, on va dire, dans la paix et la joie, le mystère du couronnement de Marie. Un peu comme si la nature était un reflet de ce moment, enfin de ce mystère du couronnement de Marie au ciel, c'est-à-dire où tout le monde est en fête, la création est en fête, les anges sont en fête, et que là, on peut demeurer, parce qu'on est assuré de cette participation ici sur terre à cette participation dans le ciel. Alors j'ai vu vraiment que Saint François avec les louanges à Marie a beaucoup prié pour cela. Et quand on le représente dans la nature, pratiquement la plupart de ces images de Saint François il est représenté dans la nature, on évoque en fait cette capacité qu'il avait à faire de la liturgie dans la nature. Alors j'en ai des images là. Bon voilà, même en sculpture en fait, il représentait avec des animaux. Alors en fait, quand on regarde une image comme ça, c'est pas du tout transcendant. Et en fait, c'est exactement le problème qui se passe avec l'imagerie de Saint François. Ce que les Byzantins ont voulu éviter avec leur saint, en fait, ils n'ont pas fait ça les Byzantins parce que ils ne voulaient surtout pas qu'on revienne à une imagerie de l'humanité. Ils voulaient absolument qu'on demeure dans la foi, en la présence. Voilà. Et c'est vraiment, avec Saint François, on a vraiment un basculement, mais qui a ouvert une porte à toute l'histoire de la peinture après, c'est-à-dire cette recherche de la beauté de la nature par les œuvres humaines. Ce qui a créé une tension entre l'Occident et l'Orient. Et c'est pourquoi je pense beaucoup que Saint François a souffert de cette tension. C'est pas pour rien qu'il ait reçu sa vocation auprès du Christ de Saint-Damien. C'est-à-dire que c'est une tension qui dure encore, en fait, hein, parce que il y a toujours un décalage entre la vision du sacré et du profane et une contradiction. Dans les livres théologiques sur l'iconographie, il y a des guerres terribles, des accusations terribles. Et il faut absolument que l'homme revienne à ce que Jésus lui-même a dit. Je vais vous montrer ce qu'il a dit. Voilà. Ça, c'est le Christ de Sainte Faustine. En fait, il n'y a pas longtemps que j'ai lu l'histoire de Sainte Faustine. Et Sainte Faustine, qui avait vu Jésus, qui lui demandait de peindre une image comme ça. Et bien sûr, elle ne savait pas peindre, elle a demandé à un peintre, et le peintre a fait ça. Cette image ne lui plaisait pas du tout, bien sûr. Elle pleurait devant Jésus, qui lui disait... Et Jésus lui a répondu ça. Jésus lui a répondu ça. Il a dit, sache que ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans cette dans les coups de pinceau que réside la grandeur de ce tableau, mais dans ma grâce. En fait, je crois beaucoup que l'histoire de l'iconographie de Saint François, il faut la placer dans cette ouverture aux deux mondes orientales et occidentales. Un monde qui veut absolument qu'on ne se détache pas de la vision mystique. Un autre qui veut qu'on fasse de la poésie sur l'humanité. Et qu'au fond, la réconciliation des deux, c'est la rencontre par la grâce. Et qu'il ne s'agit pas trop de critiquer les images des uns et des autres, mais plutôt de trouver par soi-même, par la prière, la grâce qui peut en sortir, en couler. C'est un peu ce que j'ai retenu, moi, de ce travail sur Saint François. C'est que vraiment, il était à la charnière de saint et qu'il a incarné. Il a incarné ces deux mondes où il faut faire triompher le mystère du Saint-Esprit qui est présent à travers les œuvres humaines. Et aussi l'inspiration qu'il donne aux artistes. Alors quand on regarde comment ça a évolué, c'est pour ça que j'ai mis une Vierge de Léonard de Vinci. Voilà. Alors, deux siècles après Saint-François, c'est Léonard qui peint la Vierge au rocher. Et bien sûr, pour moi personnellement, Marie est très belle. L'ensemble est mystique et plutôt énigmatique que mystique. Les franciscains qui avaient commandé cette image l'ont refusée parce que l'ange montre Jean-Baptiste, qui est en fait Marie, elle tient Jean-Baptiste, et Jésus, il est au pied de l'ange. Ils l'ont refusé parce que l'ange montrait Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il aurait dû montrer Jésus, en fait. Alors, on ne sait pas ce qu'a voulu dire Léonard de Vinci, mais on sait que là, on entre dans une histoire difficile parce que les gens ne se comprennent plus. On ne sait plus ce que veut dire l'artiste, le théologien, et que c'est toute l'histoire qui va suivre. Ça va être difficile jusqu'au point que l'image se détache du sacré complètement parce qu'on ne se comprenait plus. Et en fait, si on analyse, regardez Jésus, il est au bord du précipice.
Est-ce que tu crois que c'est pas le monde de l'agneau ?
Pardon ?
Ce n'est pas Jean-Baptiste à côté de l'ange qui montre l'agneau de Dieu ?
Non. Les franciscains l'ont refusé, il a fait une deuxième image avec l'ange qui n'a pas la main, qui ne monte pas la main. Et là, ce que je voulais dire, c'est que justement, dans toute cette histoire, après Saint-François et sa part de lui, il y a ce côté naturaliste qui veut réfléchir philosophiquement au mystère et le côté théologien qui dit non, il ne faut pas s'en écarter. En fait, il y a une histoire comme ça qui se passe juste à ce moment-là et que ça crée toute l'histoire qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui jusqu'à se détacher complètement du sacré pour faire des œuvres profanes transcendantes. C'est ce qu'ont voulu les peintres après un moment donné, c'est que leur œuvre devienne sacrée. Alors nous, notre travail aujourd'hui, on doit faire comme Saint François. On doit rester sur le canon de l'Église qui dit que la présence est essentielle et primordiale dans une œuvre, la présence du Christ, le Saint-Esprit qui ouvre. Ne pas interférer trop par des pensées ou des décors dans l'image pour qu'il interfère à axer son regard sur le mystère de la présence. Et en même temps, être ouvert dans notre vie à l'histoire poétique de l'humanité. C'est-à-dire qu'on puisse nous-mêmes s'ouvrir à tout ce qui est créé par des artistes. Mais, bien sûr, la question reste posée, qu'est-ce qui est liturgique et pas ? Voilà. Alors là, il y a des peintres qui ont donné leur... Ça, c'est des peintures de la Renaissance. Alors... Ça, c'est un peintre italien. C'est Marie qui recouvre de son manteau l'humanité, l'Église et l'humanité.
C'est Saint-François qui est à gauche, en bas ?
Je crois qu'il y a Saint-François. Oui, il y a Saint-François, oui. Oui, voilà. Oui. Alors, justement, j'ai mis celle-là parce qu'en fait, moi, je suis très attaché au fait que Saint-François, il voyait le couronnement de Marie dans la nature. Et... c'est ce qui lui procurait, je pense, la capacité de rester en contemplation des heures et des heures devant cette beauté. Alors là, j'ai mis justement une œuvre de Monet, parce qu'en fait, pour moi, ça évoque vraiment cette rencontre de la contemplation et de la beauté picturale. Je pense que ça, c'est une œuvre qu'aurait aimé Saint-François, parce qu'il lui montre qu'il ne se trompe pas quand il regarde la nature, qu'elle a un côté sacré dans tous ses détails. C'est ce que Monet essaye de faire là, en montrant la simplicité et la transcendance en même temps de la lumière. Voilà, bah, je vais peut-être terminer là-dessus. Ça, c'est une œuvre de Vermeer. Alors là, c'est justement la question, ce n'est pas une icône. Et pourtant, on peut très bien voir la présence de Marie dans cette image. Et que c'est pas forcément... on ne peut pas l'utiliser en liturgie. Quand on la regarde, on peut s'apaiser en sachant que c'est pas une œuvre morte, mais vivante. Et que sa beauté nous relate les mystères. Alors, dommage, j'ai pas pu brancher la Wi-Fi parce que j'avais beaucoup d'images sur Saint-François. J'avais prévu de vous montrer, mais je les ai pas pu les enregistrer. Voilà, donc si vous avez des questions... ou si vous voulez discuter sur quelque chose. Alors là j'ai mis ça parce qu'en fait, la deuxième chose qui est, je trouve, importante dans la beauté, et depuis que j'écoute des commentaires, je lis, je regarde, il n'y a qu'un maître, c'est le Saint-Esprit dans la beauté. Il n'y a pas de génie qui est maître, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, la compréhension du beau nous échappe complètement. J'ai mis ça parce qu'en fait, c'est une peinture que j'avais faite et que j'ai détruite après l'avoir faite, parce que je trouvais qu'elle était très laide. Et c'est après, en regardant la photo, que je me suis dit, mais quand même, c'était pas mal. Et bien, en fait, ce phénomène, et je ne suis pas le seul concerné, mais même les génies ont été concernés par ça. À un moment donné, la beauté nous échappe complètement. On est incapable de dire si c'est beau ou si c'est pas beau. Et je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas cette capacité de savoir s'il y a la grâce en même. On ne sait même pas s'il y a la grâce dedans. Donc on est un peu déconcerté. C'est que, justement, en proposant l'image aux autres, au public, en proposant l'image à la liturgie, qu'on peut se retrouver et retrouver un sens. Et que c'est une quête ensemble, en fait. Ça ne peut pas être seul. Alors, moi, j'ai fait ce travail parce que je voulais savoir comment Dieu... Saint-François voyait, parce que pour moi c'est important de savoir comment il peut prendre tant de joie à voir, tout simplement voir la lumière, parce qu'on voit très bien que Saint-François était heureux de voir de la nature, les personnes, et qu'il y a puisé continuellement de la joie. Et je trouve que toute l'histoire qu'il va ensuite avoir sur l'image fait partie de ça, en fait, de tous ces peintres qui ont essayé de voir ce que c'était la beauté de voir la nature, de l'examiner, de l'écrire. Et que, on va dire, c'est un peu comme une grâce que Saint-François a ouvert au monde. Alors, pas par son travail pictural, mais justement par sa vision du monde.
Et en sachant en plus qu'il avait une maladie des yeux, et qu'il a perdu la vue pratiquement. Donc.
Alors, justement, alors, s'il a perdu la vue, c'est qu'il voyait encore plus. C'est...
Oui, il vient de trop regarder.
J'ai écouté un témoignage dernièrement d'une femme qui, dans un accident, a perdu les deux yeux. Et puis, à l'opération, ils ont réussi à retrouver un œil. Et puis, elle fait un deuxième accident, elle perd le deuxième œil. Et là, elle disait que maintenant, elle avait trop de lumière, qu'elle ne savait plus quoi faire avec cette lumière. Elle avait trop de lumière en elle. Donc, elle avait compris, en fait, que Dieu la voulait aveugle. Et qu'elle avait accepté que cette lumière jaillissait continuellement d'elle.
Mais c'est qui
C'est un témoignage que j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà, ben alors saint François témoigne comme ça, lui aussi, puisqu'à la fin de sa vie, il n'avait plus que la lumière de la foi. Alors ce que j'ai trouvé important, et pour nous c'est le témoignage qu'on doit avoir, c'est qu'il faut garder la foi pour la compréhension du beau. Parce que vraiment, on se perd si on n'a pas la foi. On part dans tous les sens, le monde pictural est parti dans tous les sens. Et les gens même se sont suicidés. Van Gogh s'est suicidé. Beaucoup de peintres se sont suicidés en ne plus comprenant. Je me rappelle le peintre qui m'a initié, il m'a dit « Attention, tu veux être peintre, fais attention. » Et je connais beaucoup de peintres qui sont suicidés. Et en fait, c'est vrai, ça ouvre un chemin de contemplation. On a besoin de trouver un sens, sinon c'est très très lourd à porter, le poids de la beauté. Très très lourd. Et là, je crois que l'iconographie retrouve un sens plus que ce qu'on imagine, parce que l'iconographie, c'est la présence de Dieu. Donc en fait, là, la beauté par elle-même, elle est transcendée par la présence. Et le cœur s'apaise, l'esprit n'est plus autant perturbé, tourmenté, parce qu'il sait qu'il y a une présence qui est supérieure à tout ce qu'il peut s'imaginer. Et en fait, je pense que dans le témoignage que j'ai, moi, de tous ceux qui sont venus peindre des icônes, c'est la paix qui domine, en fait, dans l'histoire de l'iconographie. Le fait que la présence, justement, apaise le tourment que provoque la beauté. Et que chacun repart heureux de cette présence, plus que de l'image, parce que l'image, de toute façon, elle n'est comme pas le reflet de la réalité. Dernièrement, il y a une dame qui est venue, et quand elle a vu les icônes, elle venait de Toulon, et elle venait de loin, elle m'a dit « Mais quand, je n'y arriverai jamais à faire ça ?» J'ai dit « Mais vous êtes venue pour vous émerveiller. » Du coup, elle a pris cette parole, et elle a pleuré tout le long. Elle pleurait de joie de voir qu'il y avait de la beauté qui jaillissait. Et bon, on peut terminer sur l'image de Saint-François, je pense. Oh. Alors, ah oui, il y a...
Est-ce qu'il y a des conditions pour voir la beauté ?
Des conditions ? C'est-à-dire... Des conditions d'esprit. Alors, je pense qu'il faut chercher. C'est-à-dire la condition... c'est au départ un élan, un désir, et chercher. Et l'avantage de la peinture, c'est que ça te permet de chercher. Et le désavantage, c'est que ça te permet de t'égarer de la foi. Voilà, c'est pourquoi l'icône rassemble les deux. L'icône rassemble le travail de recherche poétique qui est très puissant dans l'être humain et la prière qui est plus puissante encore. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup manqué aux peintres, hein, dans toute l'histoire après, c'est d'avoir laissé tomber la prière, parce qu'en fait, les iconographes prient le Saint-Esprit continuellement pour avoir la grâce. Et la grâce, c'est ce que Jésus dit à Faustine, hein, c'est la grâce qui compte plus que l'image. Et voir que l'image n'est qu'un voile, en fait. Pour moi, c'est le désir qui est premier. C'est le désir d'aller voir du beau. Ce désir engendre la recherche. Et la recherche nous met en présence. Et après, dans la nature, tout devient prétexte au beau. Mais un beau qui est extrêmement intelligent, parce que impossible de comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, parce que comme c'est impossible de comprendre, on s'abandonne à la foi et à la présence. Quand on essaie de comprendre la nature, ça devient un travail gigantesque d'intelligence, qui est intéressant à faire aussi, puisque ça nous permet d'avancer. Et mener les deux, c'est l'iconographie qui a réussi à mener les deux. Mais je pense qu'on peut aussi mettre dans l'iconographie toute la recherche transcendante des peintres. les peintres qui ont vu qu'il y avait quelque chose invisible et qui ont essayé de le représenter, ont aussi fait ce travail. Et ils se sont réjouis. Mais comme je dis, un chemin difficile, dangereux, parce qu'on a besoin de s'apaiser sur la présence, qui est plus que tout, en fait. Et ce qu'on peut demander à Saint François, c'est justement d'être aidé sur la présence. Alors Saint François nous rassure parce que sa présence, c'est humble. Et au milieu des créatures, c'est pourquoi il est toujours représenté avec les oiseaux, et que les gens l'aiment beaucoup parce que justement, il est au milieu des créatures. Mais bon, je crois que c'est Marie-Thérèse qui va nous en parler cet après-midi. En tout cas, c'est un chemin qui a besoin d'aide. Il manque de professeurs, il manque d'enseignants, beaucoup. Dans ce travail-là, c'est terrible. Il manque beaucoup, beaucoup d'enseignants. Le monde s'est égaré dans les concepts intellectuels de la beauté et n'a pas compris qu'il y avait la foi dedans. Pour regarder, il faut avoir la foi, en fait. Voir, c'est à la portée de tout le monde, mais le regard, si on puisse, que ça signifie regarder, ça veut dire développer, laisser la foi entrer dans le voir. Ce qui nous permet de voir au-delà, de voir que les choses sont belles au-delà de ce qu'on voit. C'est ce que me disait le peintre que j'ai connu. Et il me dit, pour apprendre à peindre, il faut regarder. Il me dit toujours ça. Et il me disait aussi, quand on peint, on ne doit pas être noir. C'est-à-dire le noir, c'est ce qui facilite le travail pictural, c'est-à-dire de voir le monde simplifié, noir et blanc. Le monde est très complexe, il est coloré. Et le monde coloré est un monde extrêmement difficile à aborder parce qu'il est transcendant dans son image. C'est-à-dire que comme Van Gogh, par exemple, quand il travaille sur la couleur, il frôle la transcendance. Alors, ce n'est pas la transcendance divine, mais c'est une image de la transcendance. Et frôler la transcendance, ça demande énormément de force d'accueillir et de chercher. Donc, c'est pour ça qu'il me disait qu'il ne faut pas être noir, parce qu'il me disait qu'il fallait que tu ailles plus loin. Il faut aller plus loin toujours, chercher plus loin. Alors, ce qu'on peut reconnaître, et je crois que c'est ça la grâce qui s'est passée avec Saint François, c'est que si on était resté au canon iconographique byzantin, on aurait laissé tomber un pan de l'humanité terriblement beau. Tout le travail qui a été fait, c'est magnifique. Tout ce qui a été découvert de l'harmonie. Et que notre travail à nous, c'est de réconcilier les deux. Pardon ?
Tout à l'heure, j'ai oublié Saint-François. Tu en as réalisé un ?
C'est celui-là, je l'ai fait, oui. Alors, la dernière chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai passé une semaine dans la montagne, dans un gîte de montagne. Et en fait, quand on est vraiment en lien avec la nature, ensuite, l'image nous embête. L'image picturale. Moi, personnellement, quand je redescends de là, je ne peux pas regarder une image comme ça même, ni même une peinture, parce que je trouve qu'elle est fade. Elle n'a pas l'intensité de la réalité. Et il faut adapter, il faut pas, justement, à ce moment-là, il ne faut surtout pas rejeter. Il faut se laisser réadapter à l'image et de voir que c'est une écriture. À ce moment-là, on reprend contact avec le rêve, avec la poésie, et on re-rentre dans l'image sans perturber l'autre vision. Donc c'est pouvoir passer de l'une à l'autre. Et je pense que c'est exactement ce qu'a fait Saint-François, puisqu'il a reçu sa grâce devant l'icône de Saint-Damien. Et il a aimé la nature. Il est passé de l'un à l'autre continuellement. Et c'est le chemin de chrétien, en fait. C'est ce qu'a vécu le Christ.
Ça veut dire que François était déjà arrivé à ce cheminement quand il a été devant la croix de Saint-Damien, alors que c'était son début de conversion.
Je pense qu'il avait déjà fait un bon chemin. Ouais. Je pense qu'il avait fait un bon chemin parce que je ne sais pas s'il ne célébrait pas devant les icônes d'autrefois. Il a dû en voir, Mais l'image, pour lui, c'était le sommet de l'humanité, de l'esprit humain, représenter une image, sa beauté. Et je pense qu'il assez rapidement, il est passé de l'un à l'autre, sans se perturber trop. Parce que quand tu fréquentes le monde pictural, pendant Cézanne, il disait que trouver que la nature est plus belle qu'une image, c'est bête. Il disait ça. Et souvent, on dit que c'est bête de dire que la nature, c'est beau. Parce que la faculté humaine doit prendre le dessus sur la simplicité et de la nature, en fait. Et souvent, dans ce monde de l'art, on s'est détaché de la vision du réel en disant que le rêve dont on en sort est plus beau. Beaucoup de peintres ont dit ça. Ils ont dit ça parce qu'ils ne savaient pas faire le transfert de l'un à l'autre, parce qu'ils n'avaient pas la foi. On a besoin de la foi pour faire ce transfert.
Quand tu dis la nature, c'est bête, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est pure de tout ce que nous.
Oui, il y a ça aussi, oui. Il y a aussi cette pensée. Mais il y a aussi que l'image, c'est notre quotidien. L'image de la nature, c'est notre quotidien permanent. Et que tu ne peux pas toujours te dire c'est beau, quotidiennement. Donc tu te poses pour regarder le beau. Mais en fait, je ne suis pas sûr que c'est ce que vivait Saint François. Je pense que la nature le comblait continuellement. De la beauté de la lumière.
Question là sur l'importance de l'émotion. Parce que on peut soudain être ému, soit devant la contemplation de la nature, soit devant une représentation. Alors, moi je sais que c'est justement, ça doit être du domaine de l'image, mais j'étais très ému, je ne m'y attendais pas, en visitant à Florence, là où il y a Fra Angelico, et les peintures de Fra Angelico. C'est des images.
Oui, oui, oui.
Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti une présence.
Ah bah oui.
Et j'étais vraiment saisi, quoi.
Fra Angelico, il a insisté sur la présence, hein, encore. Hein.
C'est ça. Et vraiment. Alors, une autre question qui n'a rien à voir, rien à voir du tout. Mais c'est quand même une question. Les images, elles suintent jamais. Par contre, les icônes, elles suintent.
Oui, alors...
Et alors, quel est le sens de ça ?
Ah ben, c'est simple, c'est que c'est l'icône, c'est le Saint-Esprit qui l'a donné au monde. Hein. Et c'est le travail des théologiens et des artistes qui ont compris que le Saint-Esprit voulait ça. C'est leur association. C'est vraiment pour la liturgie. C'est vraiment le monde liturgique.
Parce que nous, on a rencontré à une époque Myrna, je ne sais pas si Myrna de Soufanier, en Syrie. Et c'est quand même très impressionnant, quoi. Ce couple qui a eu, il y avait simplement une photo de l'icône de Kazan, et qui, amenant cette photo et l'encadrant tout ça dans leur maison, d'un coup, l'icône se met à souhaiter. C'est tout à fait.
Ah oui, mais ça signifie qu'il y a la grâce, tout simplement.
Ça, oui.
Le monde de la grâce est dans l'iconographie parce qu'il y a la bénédiction de l'Église aussi. C'est-à-dire même, à la limite, si l'icône n'est pas trop belle, il y a le mystère de la bénédiction.
Oui.
Alors c'est ça, en fait, c'est ce monde-là, la frontière est très difficile à définir. Il y a une peinture de Raphaël qui est dans un musée en Allemagne, qui est très belle. Il y a Marie qui tient Jésus dans ses bras. Tous les gens, quand ils la voient, ils restent en silence pendant longtemps parce qu'ils sont pris par la beauté. Il y a la grâce. C'est évident que le Saint-Esprit là, a donné une grâce spéciale à cette image. Et d'autres images de Saint-François, de Saint-Raphaël, qui franchement, de Raphaël, qui ne parlent pas trop, en fait. Quand on voit certaines vierges de Raphaël, moi, ça ne me parle pas trop. Et celle-là, il a reçu la grâce. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas une icône. Pour moi, c'est une icône. De Marie et de Jésus.
Voilà.
Mais dans un musée.
Quand on reçoit l'émotion,
oui.
Et que c'est une émotion bonne, c'est pas.
Oui, oui.
On se dit, mais Voilà, et il doit y avoir du Saint-Esprit par là.
Mais alors là, je pense qu'il faut être comme Jésus, il ne faut pas trop se prendre la tête, comme il dit à Faustine. Il faut laisser s'imprégner de la grâce, plus que de l'image. Mais là, l'image, c'est qu'une fenêtre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le mystère de la foi qui fait partie de... Donc les gens qui voient Marie chez Raphaël, je pense qu'ils reçoivent quelque chose du mystère de la foi en eux, à ce moment-là. D'ailleurs, moi, j'ai vu dans l'iconographie des femmes bouddhistes se convertir en faisant Marie. Elles voulaient faire Bouddha. J'ai dit, non, il faut faire Marie. Et en faisant Marie, elles ont rencontré Marie. Alors ça, c'est la grâce de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui veut. Moi, quand j'ai commencé l'iconographie, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui voulait. Donc, on est tranquille. Ce n'est pas nous qui décidons.
Est-ce qu'il y a une importance des différentes couleurs ? Est-ce qu'elles jouent un rôle, enfin, disons, dans une icône ? On a parlé de l'or, est-ce que les couleurs ont un sens elles-mêmes ?
Oui. Alors, on dit que dans l'iconographie, le dessin est explicite. Par exemple, si on fait un bras, c'est un bras. Une main, c'est une main. Et la couleur est implicite. C'est-à-dire, elle a une symbolique. Dans le rouge, c'est la vie, le sang, le Saint-Esprit. Le bleu, le mystère de Dieu. Mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que la couleur imprègne en nous quelque chose de la lumière qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe en nous, dans le phénomène de la beauté des couleurs qui vient sur nous. C'est-à-dire, c'est une écriture de la lumière, un langage de la lumière, la couleur. Donc, on peut y mettre dans la symbolique universelle. Le vert, par exemple, on le symbolise par le Saint-Esprit aussi. Ou alors, dans l'iconographie, il n'y a pas beaucoup de vert parce que c'est la nature et que les peintres ne veulent pas trop qu'on se colle à la nature. Ils veulent qu'on se détache de la réalité que nous voyons. Mais le noir, c'est l'enfer et c'est le mystère de l'inconnaissance de Dieu. Donc le noir, on le trouve dans les pupilles. Les pupilles sont noires parce que c'est le centre du mystère de la présence. La pupille est toujours noire dans les icônes. Et on le trouve dans les enfers, dans les grottes qui représentent les enfers. On le trouve aussi au milieu des nimbes qui se concentrent sur le noir dans la transfiguration. Donc la symbolique, elle est universelle, elle est particulière aux cultures. Elle est particulière aux peintres même, aux théologies des écoles picturales. Mais il se passe autre chose que personne n'a compris, je crois, sur la psychologie. La couleur nous parle de quelque chose qu'on ne comprend pas en nous, qui nous rend en joie ou en beauté, et on ne comprend pas ce qui se passe vraiment. Et l'icône a beaucoup travaillé là-dessus en faisant un dessin très défini, par exemple. Il n'y a pas de flou dans l'icône. Tout est défini pour dire que chaque chose est bien précise. Un marteau, c'est un marteau. Et par contre, dans la couleur, les associations, les symboliques ont une limite. En fait, on ne va pas très loin dans la compréhension de ce que c'est que la couleur. Donc, il faut plutôt se laisser saisir par l'émotion, justement, et la beauté. Alors, l'avantage, c'est que dans la peinture byzantine, il y a eu des très grands coloristes. Il y a des peintres qui ont peint comme Van Gogh, quand on voit certaines peintures au Mont Athos. Il y a des peintres qui ont été très très loin dans la recherche de la puissance des couleurs. Mais c'est difficile de dire ce qui se passe. Voilà. Moi, je ne sais pas ce qui se passe.
Une influence, je rêve peut-être, mais quand ce que tu as dit du noir, est-ce qu'il n'y a pas une influence de toute la tradition de la théologie négative ?
Oui, c'est ça.
À partir de l'Hymnopagite.
Oui, oui, oui.
Et puis, moi, je pensais justement à un bouquin de mystique de la Moyen-Âge anglais qui s'appelle Le nuage de l'inconnaissance.
Oui, oui, c'est ça. Mmh. C'est ça que, et les enfers, parce qu'il y a l'absence de lumière, de la lumière du Christ. Les enfers, c'est le noir de la lumière du Christ.
Qu'est-ce que tu penses, Jean, de la démarche de Soulage sur le, alors, l'outre-noir?
Oui, alors, justement...
Puisqu'on parle des noirs.
Soulage, en fait... ce que j'ai trouvé, si tu te promènes la nuit, un clair de lune, au bord de la rivière, des Soulages t'envoient des millions. Des millions, il y en a. Partout. En fait, Soulages, il a utilisé un phénomène de la beauté. Et il a essayé de dire que c'était un phénomène, enfin, c'est peut-être pas lui, hein, mais exceptionnel. En fait, c'est pas exceptionnel du tout. C'est le phénomène de la lumière, du noir et du blanc, qui est partout. Qui est infini. Si tu veux, tu vas au bord d'une rivière, la nuit quand il y a la lune, t'envoies des millions des Soulages, il y en a partout. Donc en fait, c'est le problème du concept, c'est-à-dire c'est l'art moderne. Et il y avait de l'argent à gagner, il y avait un concept à définir. Et on dit que là, on a atteint un niveau supérieur de l'esprit humain. En fait, pour moi, on n'a pas atteint un niveau supérieur. Au contraire, on a fait quelque chose de beau, mais qui n'est pas supérieur du tout. C'est pas supérieur.
Quand on visite Conque,
oui,
on voit ça.
Mais c'est pas supérieur. Non, et alors là, tout l'art moderne est là-dessus, en fait. Hein, en disant que, par Nicolas de Staël qui s'est suicidé, lui, il a simplifié la lumière en faisant une lumière et la matière immatérielle. Il est à la frontière du matériel, de l'immatériel par la lumière. Et ça l'a tué. Parce qu'il avait perdu le contact avec la réalité. Et que son œuvre, qui est très belle, mais ce n'est pas exceptionnel. C'est la nature, elle est comme ça. Si tu regardes les phénomènes des lumières, il y en a partout de ces phénomènes. Partout ça existe, les phénomènes de lumière, du matériel à l'immatériel. C'est la lumière, c'est ça, de toute façon. Quand il y a un jet de lumière sur l'herbe, là, regardez, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça, là. Eh bien, en fait, ils se sont laissés prendre par un détail, en fait. Et ils en ont fait une exception. Mais c'est pas vrai, c'est pas une exception. Mais c'est pas laid. C'est pas laid.
Il y a peut-être un message dedans, quand même. Alors, c'est passer du chaos si, de la message, nuit vers la lumière.
Ah ben, le message, c'est de dire que le monde que nous voyons n'est pas suffisant. C'est ça, le message de l'art moderne. C'est de dire qu'il y a un autre monde qui est derrière. Mais ils n'ont pas dit plus que les autres. Hein. Ils n'ont pas dit plus. Ils ont juste dit qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ont dit qu'on pouvait essayer d'approcher le sacré, le transcendant, mais sans passer par l'Église, sans passer par la foi.
On a eu un témoignage récent, peut-être ça par rapport, mais direct par un gars qu'on connaît, un diacre d'un diocèse voisin, qui était protestant. Il était converti par la lumière, parce qu'il est rentré dans... Enfin, il était dans une situation intérieure difficile dans sa famille, rentré dans la basilique de Fourvière, en allant voir la dame, là, cette dont il est question, là. Et alors, il s'est mis à prier pour sa petite fille qui était très malade. Il s'est mis à prier, et il était au début de la basilique. Et là... d'un coup, le vitrail sur sa droite s'est rempli de lumière. J'ai dit, mais je suis fada, qu'est-ce que j'imagine? Ah, il s'est mis au milieu de l'église. Le vitrail qui était illuminé n'était plus illuminé. Le vitrail suivant, tombé sur lui, était illuminé. Ah, j'ai dit, alors c'est fort de café, je me mets tout à fait au fond. Il se met tout à fait au fond, tous les vitraux avant s'éteignent, le vitrail là où il était, la lumière comme ça. Voilà. C'était à 3h de l'après-midi, un vendredi. Et quand il est rentré à la maison, il a dit à sa femme, j'ai quelque chose à te dire. Elle a dit, moi aussi. Et alors, elle a commencé, la dame, elle a dit, voilà, notre petite a été guérie à 3h de l'après-midi, tel vendredi. Elle a dit, c'est à cette heure-là que j'ai vu la lumière. C'est bon, quand même. Ouais.
On pourrait méditer sur les sept couleurs qui sont le mystère de la lumière,
oui.
Sur les sept dons de l'esprit, Il y a un lien très fort.
C'est un travail qui est très peu avancé, en fait. Enfin, j'ai pas beaucoup lu, un petit peu, mais en fait, c'est très difficile à comprendre ce qui se passe en fait avec la couleur. Je pense qu'on aura plus de réponses au ciel. Alors, la lumière, c'est le langage du ciel, parce que tout est lumineux.
C'est la manière dont Dieu se communique.
Et en même temps, la transfiguration du Christ, le blanc, ça veut dire aussi que si on essaie de la comprendre de transcendant par l'immanent, c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est aveuglant. C'est que du blanc. Si tu essaies de comprendre ce qui se passe dans le ciel par la couleur, tu vas pas aller loin.
C'est là le blanc est au-delà du blanc.
Oui, voilà.
L'autre blanc.
C'est l'autre blanc.
C'est trop blanc.
C'est trop blanc.
Oh, bah alors, ça
fuse. La deuxième. Les Russes, l'iconographie russe a laissé tomber le blanc parce qu'ils s'intéressaient au visage du linceul, c'est-à-dire au visage, en fait. Ce qui est important dans l'iconographie russe, c'est le visage, le nez, la bouche, les yeux, et pas trop la montée de lumière. C'est-à-dire le visage parle de Dieu. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Quand on met un nez, les yeux, la bouche, on parle de Dieu. Les Byzantins ont dit, on parle de Dieu. Oui, d'accord, mais nous, on met aussi la beauté picturale dedans. C'est-à-dire la montée des lumières et l'harmonie des couleurs. Eux, c'est plus, c'est le visage qui parle, ça suffit.
Comme l'image de Dieu.
Voilà. Et en fait, ça suffit pour prier, d'avoir le visage. Ah, bien sûr, il y a une grâce dans la peinture.
C'est ça qui les a fermés dans le métal et tout ça.
Oui, voilà. C'est ça. C'est le centre, c'est la construction du visage. Et quand tu regardes des icônes, des très belles icônes russes, il n'y a pas trop de montée de lumière, il n'y a pas de blanc même, des fois c'est que des aplats, pratiquement. Et cet aplat est aussi une vision de la présence. Alors, il y a eu des conflits, et il y en a toujours entre les deux, mais chacun a son école en fait. Mais vraiment, nous, on doit arrêter ces conflits, parce que chacun a sa grâce particulière. Et dernièrement, j'avais un livre sur les icônes ukrainiennes. Et quand je suis allé au stage, il y a une dame qui est très byzantine. Elle a regardé le livre, elle a fermé de suite. Et elle a dit, c'est pas pour moi. En fait, elle a décidé qu'elle ne pouvait pas rentrer là-dedans. C'était une décision personnelle. Mais elle n'a pas dit que c'était mauvais. Mais elle ne peut pas parce que les Ukrainiens sont allés vers la couleur occidentale, vers la beauté picturale occidentale, et ont créé un autre monde. D'ailleurs, malheureusement, ça fait partie encore du problème avec la Russie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même vision de l'iconographie entre le Moscou et l'Ukraine. Et tout simplement, Jésus fait bien comprendre à Faustine que c'est la grâce qui compte. C'est pas celui qui va aller plus loin dans ceci ou dans cela.
À ce point de vue-là, tu nous demandes souvent de bénir les icônes. Et en fait, déjà l'icône, elle est déjà... Au commencement, vous faites une icône, vous priez déjà.
Oui, oui.
Donc il y a déjà un quelque chose. Et je ressens chaque fois ce mystère-là, de dire une prière, et qui va donner à l'image, et pour ça... on le fait en deux temps, une image qui va devenir une icône. Il y a un passage de l'image à l'icône.
Oui.
Et c'est quand même une grande question de foi.
Oui, c'est la foi. Parce qu'en fait, vraiment, l'icône, c'est plus que la beauté, en fait, hein, l'histoire de l'icône. C'est la présence. D'ailleurs, le linceul de Turin, au fond, c'est la présence, plus que la beauté du visage de l'homme, parce que c'est un visage tourmenté. Et c'est important d'en revenir à ça, et c'est ce qui a manqué à toute l'histoire de la peinture après Saint-François. Mais Giotto a commencé déjà, parce que Giotto s'est intéressé à l'homme dans la nature. Il a oublié certains canons pour voir l'homme qui se promène dans la nature. Et c'est beau, c'est très beau, mais il commence à s'éloigner de ce canon qui est de dire non, mais c'est ce qui compte, c'est vraiment la présence du saint qui est là derrière, de l'autre côté du voile. Donc après, ça devient anecdotique, ça devient toute une recherche poétique intéressante, mais on s'éloigne de la liturgie. Voilà. Donc, les Russes et les Grecs ont gardé un canon très précis pour ne pas s'éloigner de la liturgie. Et ils n'ont pas été contents quand les autres s'en sont éloignés. Et la Renaissance a permis le développement de la poésie, ce qui est très intéressant. Mais la poésie, elle peut faire partie de la liturgie aussi. Donc c'est très difficile de dire la frontière d'un objet liturgique ou pas. Mais l'essentiel, c'est que la peinture ne perturbe pas la vie de prière. C'est la seule règle d'une image sainte. C'est que de la regarder ne perturbe pas ta vie de prière. En fait, tout le reste, après, c'est libre. C'est le Jésus de Sœur Faustine, il y en a, ils ne peuvent pas prier devant.
Il y en a un, c'est une copie.
Oui, il y a une copie.
Celui qui t'a montré, l'original, celui-là, il est plus beau que l'autre.
Si tu pries devant, moi j'ai fait ça récemment, parce que je ne priais jamais devant. Et là, en fait, tu pries devant en gardant la foi de la présence, et bien ça va, ça marche. Le Christ est présent dans cette image. Elle a été bénie par Paul VI, cette image. C'est la seule image occidentale qui a été bénie, je crois, par un pape. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. oui, je sais.
Elle est déjà plus jolie que l'autre.
Oui.
L'autre, elle est vraiment
jolie. Ah, la première, elle est pas belle, ouais. Voilà.
Mais c'est vrai qu'actuellement, on voit le développement d'un art religieux très kitsch.
De plus en plus.
Les Ukrainiens, tu as raison. C'est, des couleurs pisseuses, c'est horrible.
Alors, il y a les deux.
C'est presque blasphème d'utiliser de faire des choses laides. Mais à Lourdes, il y a eu le même principe, truc à Lourdes. Une fois, on regardait les premières représentations de Marie, au moment des apparitions, les premières statues qui ont été faites, oui, c'était un art quand même joli.
Oui.
Bah, c'est pas sublime, mais des matériaux de qualité. Enfin, on sentait qu'il y avait une recherche.
Oui, oui.
Et puis au XXe siècle, c'est affreux, quoi. C'est du plastique, c'est atroce.
Oui.
L'industrie s'est saisie de l'art.
C'est la Chine, ça.
Pour faire de l'argent, pour faire. Oui. Là, il y a une même mise du... C'est le veau d'or, quoi. C'est l'image du veau d'or qui a pénétré la religion.
C'est-à-dire que quand tu visites des peintures modernes, par exemple Soulages, ça t'ouvre vers le mystère, en fait. Beaucoup de gens...
Il y avait une démarche, il me semble, d'avoir lu des choses sur...
Ça t'ouvre vers le mystère, mais c'est comme si on était à la préhistoire. C'est-à-dire comme les gens qui peignaient sur les grottes, qui commençaient à faire des dessins, et ça les ouvrait sur le mystère de l'existence, de l'invisible. Mais nous, on a dépassé tout ça.
C'est l'art païen.
On a dépassé. On a le Christ, on a l'image de Dieu. Et que cette ouverture que donnent ces expositions ne se traduit pas par la foi. Et c'est une limite de la beauté. On limite la beauté parce que quand tu regardes le travail iconographique depuis 2000 ans, c'est impressionnant la beauté que tu trouves. Ils ont exploré toutes les formes d'expression des langages artistiques. Il y a une beauté considérable dedans. Alors là, on limite la beauté à l'éveil de la conscience. Alors que la beauté, c'est un travail de l'intelligence. C'est l'émotion qui s'ouvre vers un travail de l'intelligence, qui est un travail difficile, mais que justement l'Église a facilité en faisant des canons de construction qui sont très simples, qui est la ressemblance. C'est-à-dire que ce qui compte dans une icône, c'est de ressembler en fait à l'image d'origine, à l'archétype. Et pour y ressembler, il suffit de copier. Et dans la copie, ce que tu mets toi, c'est vraiment très personnel. Tu y mets ta poésie, ta prière personnelle, et tu donnes une image unique, qui finalement est une création, à partir de l'archétype. Et en fait, c'est ce que nous sommes tous, hein, c'est-à-dire qu'on met tous une création particulière à partir de l'archétype. C'est ce que l'art a voulu se sortir de ça en créant du nouveau, ce qu'on appelle la Renaissance, justement. C'est de dire qu'on pouvait sortir de la ressemblance pour trouver une voie encore plus personnelle, personnalisée. C'est pourquoi les peintres sont devenus très personnels, et les écoles.
Ils ont commencé à signer leur œuvre.
Voilà.
Beaucoup, et je pense à toutes les... à Lourdes, beaucoup, et puis les uns et les autres aussi, nous avons des statues. La statue qui représente d'une façon très concrète, elle est... Qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'icône ?
La statue de Marie. Oui. Alors, la statuaire ne théologiquement ne veut pas représenter la présence réelle. Elle veut évoquer le symbolisme de la présence par rapport au signe de l'icône. L'icône, c'est vraiment la présence réelle de la personne. La statue, dans la théologie catholique, c'est pas la présence réelle, c'est on symbolise sa présence. Voilà, il y a un petit décalage entre les deux. Après, peut-être à Lourdes, Marie est devenue présente dans la statue, à travers la statue. C'était pas par rapport à l'image qui est une illusion, parce que l'image peinte, c'est une illusion de la présence. C'est-à-dire, il n'y a rien. Quand tu peins une image, il n'y a rien, c'est que c'est du plat, en fait, il n'y a rien derrière. La statue, par contre, elle est présente par sa matérialité. Donc ça veut dire que l'image nous traduit dans une illusion qui est l'image de la foi. En fait, l'illusion, quand tu regardes une peinture, n'importe laquelle d'ailleurs, c'est l'image de la foi que ça existe, en fait. Parce qu'il n'existe rien dans l'image. C'est qu'une image sans consistance. C'est plat. On ne peut pas rentrer dedans. Et c'est l'image que ça existe par la foi. C'est-à-dire, même je pense à un paysagiste, hein, quand il peint une peinture, c'est pour dire que la beauté existe à travers son illusion de la beauté. Elle existe vraiment. Et Marie, je crois qu'à Lourdes, à l'origine, c'est un symbolisme de sa présence. Alors après, maintenant, il y a peut-être la grâce de la présence que le Saint-Esprit a voulu à travers la statue. Ça. Mais ce n'est pas l'origine théologiquement, non?
Ce que je retiens un peu, c'est quand même ce grand événement du Saint-Esprit qui donne la foi. Donc, enfin, nos icônes, c'est avant tout des lieux de présence de la foi, quoi. Et même si l'icône n'est pas très belle, comme tu le disais, dans son expression extérieure, du fait qu'elle est consacrée, elle porte un mystère de la foi, un mystère du Saint-Esprit, un mystère de la foi. Ça, c'est merveilleux pour moi, ça.
Moi, je vois très bien avec les élèves dans les cours, l'enchantement qu'ils ont, c'est incroyable, à partir d'une image simple. Mais il passe quelque chose d'incroyable dans les images simples des débutants. Il y en a vraiment, ils disent « je l'avais à la garder jusqu'à la fin de ma vie, en fait ». Ils la regardent jusqu'à la fin de leur vie, après, ils prient devant. C'est-à-dire que ça prend une importance considérable dans leur vie. Mais c'est la foi, parce que l'image par elle-même... mais c'est la foi, mais c'est aussi... c'est un peu l'école maternelle, l'iconographie. C'est-à-dire que... on fait, avec le peu d'éléments qu'on est capable de faire, on fait une image qui plaît à Marie. Ça lui plaît à Marie qu'on fasse cette image. Elle est contente. Dieu est content qu'on fasse cette image, qu'on lui fasse cette image pour la prière, toute simple.
Oui. De la portion cul.
Oui, ah oui, ça c'est
une splendeur.
Oui. Mais là, on est encore dans le byzantin presque. Toute cette période-là, oui.
Si,
si l'image n'avait pas été consacrée, elle n'aurait pas le pouvoir a reçu, hein.
Non, mais c'est ça, c'est la grâce de l'Église, en fait. On voit très bien qu'après, elle a un ministère de prière. Moi, personnellement, je vis avec les icônes. Hein. C'est important pour moi. Et je me suis aperçu que c'était important pour tous ceux qui en faisaient une. Il y en a, ils m'ont dit, je l'ai mis... alors, l'autre fois, encore un peintre, il m'a dit, mais je l'ai mis en face de mon lit, je la regarde tout le temps. Il se passe quelque chose de très beau, en fait, dans cette relation. C'est très, très beau, la relation qu'on peut avoir avec la beauté d'une icône toute simple qui est sortie de la beauté picturale. C'est très beau, ce qui se passe. Il y a une relation très belle qui s'instaure. Et une relation où on est sorti du conflit. Ça, c'est très intéressant. Parce que les personnes en face, c'est des saints. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit quand tu regardes Saint-François, il n'y a pas de conflit avec lui. Lui, il n'y a pas de... Et ça, si tu le sens quand tu peins des icônes, qu'il n'y a pas de conflit de l'autre côté.
Moi, ce que j'ai remarqué, là, chaque fois qu'il y a une bénédiction des icônes, c'est quand la personne parle de la façon dont a élaboré progressivement l'icône, comme un espèce de dialogue où de temps en temps c'était difficile. Que vraiment, il y avait un autre, un face-à-face, quoi.
Oui. Non. Ah oui, ça c'est... Ben les dames qui étaient bouddhistes, là, c'est ce qu'elles ont dit. Hein. En peignant Marie, elles ont eu Marie devant elles, elles l'ont eu en présence, elles ont été en présence de Marie, donc après, elles sont devenues mariales. Elles étaient sûres que Marie existait. Ah oui, non, c'est...
L'effet que ça me fait, moi, les icônes, c'est un peu comme la parole de Dieu. Ça veut dire que ça te rappelle un événement, c'est comme une mémoire, en fait, qui refixe ta pensée sur Dieu, sur tel mystère de la foi, et qui permet d'entrer, en fait. Mais il y a un moment donné, quand on est vraiment dans la prière, l'icône, elle disparaît, quoi. Tu vois
oui,
ce que je veux dire?
Oui, j'ai compris aussi.
C'est comme, voilà, quelque chose qui va fixer ma pensée sur Dieu,
oui.
Tu vois, comme une mémoire, en fait. Alors que moi, je la perds, la mémoire. L'homme perd la mémoire. Mais là, ça permet de fixer le mystère et d'y entrer. Mais après, ça disparaît pour moi.
Alors, ce qui s'est passé, je pense, avec la... C'est un peu la grâce de la Renaissance. C'est de ne pas tomber dans l'idolâtrie de l'icône, en fait. Je pense ce qui s'est passé avec la grâce de la Renaissance et l'histoire de la peinture, c'est ne pas tomber dans l'idolâtrie de l'icône, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a des gens, tout est blasphème en dehors de l'icône. Quand tu écoutes certains théologiens, oui. Et que même la réalité de la nature, elle est loin de ce que tu vois là. C'est-à-dire que concentrer tout sur cette beauté qui a été instaurée. Et donc ça a été une voie qui a été contrée. Par la Renaissance, en disant non, mais la beauté, nous on peut la chercher aussi ailleurs. Alors, c'est pas une voie majoritaire, mais quand tu écoutes certains théologiens, c'est tout ce qui sort de ça, c'est du... D'ailleurs, il n'y a que des prêtres orthodoxes qui peuvent peindre, qui peuvent poser les yeux. Si tu sors du canon, t'es un blasphémateur. Enfin, t'es. Il y a vraiment toute une théologie.
On peut aller trop loin.
Voilà. Alors en fait, c'est difficile cette relation. Mais je crois que Saint François, justement, il était là. Il était à la charnière de tout ça en disant. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette profusion après lui. C'était. Non, il ne faut pas faire d'opposition. Il faut mettre chaque chose à sa place. Mais on peut aimer tout. Et voir et trouver la grâce qu'il y a dedans.
L'orienté.
Voilà,
orienté.
C'est impossible de tenir la capacité poétique de l'homme, de l'enchaîner. On ne peut pas enchaîner la capacité poétique de l'homme. Il faut qu'elle sorte, qu'elle crée. Mais elle ne doit pas étouffer la foi.
Elle doit s'orienter
voilà.
Par la foi dans la volonté de Dieu.
Et c'est ce qui se passe quand tu fais des cours d'icônes, en fait, c'est que la foi, petit à petit... L'autre jour, j'ai fait avec Christian Steven de la Bastille de Sérou.
Oui, il
n'a pas la foi. Ah ben lui, ça y est, il est en train de l'attraper. Ah oui, il voulait venir à la messe, là.
C'est pas bon.
Oui, oui. Non, parce que dans l'icône, il se recentre sur... Il comprend que là, il est devant un truc qui le dépasse complètement, de la beauté.
Je suis stupéfait.
Ben, ça appelle, au dernier moment, sa fille l'a appelé, sinon il serait venu à la messe. Oui.
Mais c'est bon.
Oui. Mais parce qu'il est, devant deux mystères, la beauté picturale qu'il aime beaucoup et la présence qu'il ne comprend pas. Il se trouve devant ces deux mystères.
De
et l'icône est très théologique parce qu'elle explique que tout ça vient pas comme ça, mais ça vient par une histoire sainte, des révélations, des présences.
Ouais.
Et il voit que ça tient debout. Donc la question le perturbe.
En fait, l'icône, c'est une pédagogie du Saint-Esprit.
Oui. Ah oui.